Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346.
C'est la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles.
Salut Mario.
Alors, la vaccination, ça progresse?
Ça progresse. Je voulais juste faire une petite parenthèse, oui, parce qu'il m'est arrivé une aventure assez spéciale en revenant du Chili. J'avais été au Panama avec Copa Airlines. Et 75% des gens qui sont rentrés dans l'avion, c'était des travailleurs agricoles, des latinos qui viennent dans nos champs et dans nos campagnes.
Ah oui, parce qu'on est à la date de ça, là. Ils s'en viennent pour le printemps. Là.
Et Mario, il y aurait eu vraiment la possibilité de faire un bye-bye. Alors, je voyais tous les travailleurs latinos, guatémaltèques et mexicains pour la plupart, avec des valises, une petite valise d'agent d'assurance pleine de papiers, parce que c'était les papiers que le travailleur doit remplir, exigence du gouvernement fédéral, pour s'en venir au Québec. Alors, il y en a un qui l'a échappé à un moment donné. Alors, je me suis rapproché pour voir que ça n'avait aucun sens. Et naturellement, ça a causé un embouteillage, parce que tout le monde, là, surtout avec la pandémie et tout ça, donc ça fait de la paperasse supplémentaire. Mais juste pour te dire, parce que moi, j'ai parlé à beaucoup d'agriculteurs à Saint-Rémy comme au Témiscamingue, remplir, faire venir quelqu'un de l'étranger pour travailler dans ton champ. Le gouvernement fédéral a tellement d'exigences, il y a tellement de paperasse à remplir que ça prend quasiment une personne à temps plein à la ferme pour être en mesure d'appuyer les agriculteurs. Mais
même le travailleur qui s'en vient au champ, il y a une valise d'un vendeur d'assurance avec tous ses papiers.
Ça n'a pas de bon sens, Mario. Et d'ailleurs, les Mexicains en riaient parce qu'ils ont le rire facile et ils avaient raison. Mais ce qui est un peu plus dramatique, parce qu'il y a eu une nouvelle la semaine passée, j'ai vu ça, que les Mexicains ou les Guatémaltèques ou les travailleurs agricoles qui arrivent ici, qui viennent de l'étranger, doivent attendre presque 18 jours avant d'avoir le résultat de leur test du fameux PCR.
Mais ils sont vaccinés,
alors,
par exemple.
Trois. Ouais, mais Mario, ils sont confinés dans le logement, à la ferme. Donc, ils ne peuvent pas aller au champ. Donc, c'est presque 3 semaines de productivité de travail que l'entrepreneur agricole, puis qu'eux autres perdent, dans le fond, ils sont payés quand même. Mais juste pour te dire encore qu'il y a quand même là-dedans un problème d'inefficacité. Je voulais te parler de la vaccination, Mario, parce que tu as écrit un article, on en a parlé, et je pense qu'il faut faire un examen, puis peut-être qu'avec le recul, parce que j'étais parti quand même pour le travail quelques mois, j'ai vu ce qui se passait ailleurs. On a tendance au Québec à s'inspirer pas mal des films d'Elvis Graton. Des méga hôpitaux, des grosses structures en santé comme le CIS, le CIUS, des gros organigrammes, des gros packages pour le monde qui quitte le secteur de la santé, des grosses réunions, des grosses taxes puis des impôts assez pesants. Puis quand je voyais en fin de semaine, puis depuis quelques jours, on voit de plus en plus ça, des files d'attente où les gens veulent aller se faire vacciner. Puis les gens ne semblent pas révoltés, et moi, je trouve que c'est peut-être le début de la fin de quelque chose de plus grave que ça. Et on se rend compte aussi que le gouvernement avait choisi, ou les gens de santé publique ou le ministère de la Santé, de décider de lancer la campagne de vaccination au Stade olympique, puis au Palais des congrès, pourquoi pas le Centre Bell, alors qu'on aurait pu probablement utiliser la meilleure structure au Québec qui marche. Et le ministre de la Santé l'a répété, lui et d'autres qui l'ont précédé, que la meilleure structure en termes d'opération en matière de vaccins au Québec, c'était notre réseau de pharmacie. Comment se fait-il, Mario? Puis d'après moi, il y a eu un gros débat de pouvoir politique, définitivement, au niveau des fonctionnaires de la santé publique, des corporations professionnelles, pour dire, bon, ben on va donner les miettes aux pharmacies parce que c'est ça qui arrive actuellement, mais on va s'organiser pour créer un service parallèle, extrêmement coûteux, Mario, puis qui n'est pas nécessairement très, très efficace. Je voyais des images hier là, à LCN, là. C'est bien sûr qu'on avait des vaccins disponibles à Jonquière, mais si tu n'étais pas là à 6h15 le matin, comment que la personne de Delbeau et de Mistassini pouvait se rendre là? Ça n'avait aucun sens. Alors moi, je pense, Mario, qu'on a manqué une chance de tabler sur quelque chose qui marche, qui fonctionne, qui est notre réseau de pharmacie, parce que les gens dans les pharmacies, que ce soit dans ton quartier ou dans ton village ou dans ta région, les pharmacies connaissent leur clientèle. Il y a des stationnements. On est capable de régler des problèmes sur le coup s'il y a des problèmes qui surgissent, parce que ce sont des gens très, très organisés. Et moi, je pense que tu as dit une phrase importante dans une entrevue que tu as faite la semaine passée. Tu as dit, dans le fond, l'affaire la plus importante, c'est que la dose se rentre dans le bras le plus rapidement possible. Actuellement, c'est pas ça qui arrive au Québec.
Ouais, mais c'est parce que... Tu sais, t'as dit les grosses affaires, mais on aime créer des patentes. T'sais, ça prenait des grands centres de vaccination, je le nie pas. Mais tu dis, nous autres au Québec, là, on a parti toute la grosse patente de créer des centres artificiels, puis on a dit, on va compléter ça avec nos petites pharmacies qui existent. Alors que peut-être la logique, ça aurait été de dire, nos pharmacies sont là, sont déployées, sont partout sur le territoire. Fait qu'on va commencer par voir ce qu'ils sont capables de faire, puis on va compléter, tu comprends? On va compléter avec, on va créer des gros centres pour compléter, mais non, c'est pas de même. Nous, au Québec, c'est pas de même qu'on parle. Mais là, on va finir par les embarquer un peu partout dans les régions du Québec, là, les pharmacies. Et, je pense que ça va être un gros apport.
Mario, oui. Je veux juste terminer parce qu'aujourd'hui, le 13 avril, ça fait 40 ans que le gouvernement de René Lévesque, oui. Élection de 1981, je me suis fait élire pour la première fois, a formé le gouvernement le plus important dans l'histoire du Parti québécois en termes de nombre de députés. 80 députés.
Mais donc, d'abord, ta première élection comme député, ça va faire 40 ans demain?
40 ans aujourd'hui, Mario.
40 ans aujourd'hui même? OK, 13 avril.
C'est le 13 avril. Je voulais juste...
Je te demanderai pas ton âge, mais t'as été élu à quel âge déjà? 23?
24. J'ai eu ma fête pendant l'élection, le 24 mars. Et je voudrais quand même faire un coucou aujourd'hui au plus vieux, le plus ancien des ministres qui est encore vivant de l'équipe de René Lévesque, qui est Jacques-Yvan Morin. Faut jamais oublier Jacques-Yvan Morin parce qu'il y a eu un débat célèbre contre René Lévesque dans les années 70 à l'Université de Montréal. Il l'avait mis en boîte sur la question de le concept de M. Lévesque sur la souveraineté association. Et Jacques-Yvan Morin avait remporté le débat de la soirée. Naturellement, Jean-Roch Boivin, chef de cabinet de M. Lévesque, qui est encore vivant, 90 ans, avec qui je suis en contact encore aujourd'hui, Michel Carpentier, Claude Charron aussi, qu'on voit moins souvent au Québec, mais qui a été un des fers de lance, et beaucoup d'autres. Mais je pense que ça valait la peine de faire une petite parenthèse sur ce moment historique, parce que, bon, le PQ n'a pas été capable de répéter ensuite une formation ou un gouvernement formé de 80 députés. Alors, je pense que ça va être difficile encore. En tout cas, moi, je ne vois pas le jour où on va être en mesure, au Parti québécois, de rééditer ce que René Lévesque a fait en 81.
Merci beaucoup. Salut.
Merci. Bonne fin de journée.